On est parti, on y va ensemble dans Exode 15. Nous allons lire quelques versets. On a lu l'ensemble du chapitre pour ceux qui étaient là dans la première partie. Je vais juste lire les deux premiers versets pour s'introduire. Ensuite, on va lire les autres à mesure qu'on avance dans le message. Mais juste pour... c'est comme ça l'amène l'essence de ce qui est chanté dans le cantique de Moïse. Ça dit au verset 1, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantant ce cantique à l'Éternel et dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Évidemment, il y a beaucoup plus que ça dans ce passage-là. Mais j'aimerais qu'on prie, puis ensuite, j'aimerais qu'on considère ensemble une nouvelle puissance surnaturelle dans ce texte. Merci Seigneur de ce que nous avons, ta parole vivante et efficace entre les mains. Seigneur, notre confiance ne repose pas sur nous-mêmes, sur le prédicateur, sur nos circonstances ou quoi que ce soit en nous, autour de nous. Mais notre confiance, Seigneur, elle est en toi. On t'invoque parce qu'on s'attend, Seigneur, à des bonnes choses de ta main. On a besoin de toi et Seigneur, merci que tu es disposé ce matin pour bénir, pour voir, pour être le secours de ton peuple. Merci Seigneur que c'est jamais en vain qu'on se tourne vers toi. Donc on s'attend Seigneur à ce que tu fasses ce que tu as prévu avec chacune de nos vies, puis aussi avec cette église Seigneur. Nous sommes une communauté de foi, nous sommes plus que juste un rassemblement de personnes. Nous sommes un en toi Seigneur et merci que c'est toi qui nous as rassemblés. C'est toi qui fais ton œuvre, Seigneur. On te loue et on te remercie, Seigneur, de ce que tout ça, c'est bon. Et merci que, Seigneur, c'est par la dépendance en toi, Seigneur, que tout ça s'accomplit. Donc, c'est ce qu'on veut renouveler ensemble avec ta parole, Seigneur. Nous montrer à quel point tu es bon et on a besoin de toi dans toute ta bonté, Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, dans Exode... On peut dire, évidemment, là, tous les événements qui sont autour de la mer Rouge, c'est un moment fort, un moment impressionnant, très significatif de l'histoire de la rédemption. Et en fait, ce passage, pas nécessairement juste le cantique de Moïse, mais tout ce qui est autour de la délivrance à travers la mer Rouge, ben, c'est cité dans les psaumes, c'est cité dans l'Ancien Testament, c'est aussi cité dans le Nouveau, par exemple, dans 1 Corinthiens 10. Donc, c'est un événement très, très important. Et c'est un passage où le surnaturel est mis de l'avant, est évident. Où est-ce que vraiment, là, on dit, waouh, OK, là, on est dans les choses spectaculaires. Je disais tantôt, le mot tape à l'œil, pas dans le sens sensationnalisme, mais tu sais, c'est comme, waouh, la mer qui s'ouvre, puis le peuple de Dieu qui passe, puis ses ennemis ensuite qui sont engloutis. Donc, c'est spectaculaire. On peut dire dans ce sens-là, c'est glorieux. Et on va considérer ça dans le message, mais aussi, je le disais avant le temps de prière, un autre aspect de la gloire de Dieu, un autre aspect du surnaturel, mais on va dire plus ordinaire, moins spectaculaire, mais les deux sont la manifestation du même Dieu, de la même grâce, et c'est ce qu'on va voir ensemble avec deux aspects de la nouvelle puissance surnaturelle que nous avons avec notre Dieu. D'abord, l'aspect spectaculaire, puis... Le point, ça va être surtout de lire le passage, parce qu'on le voit. J'aimerais qu'on prenne le temps de relire les versets qu'on a déjà lus, mais vous allez voir, si on voit vraiment comment c'est hors de l'ordinaire. Et donc, on avait arrêté au verset... en fait, on avait juste lu le verset 1, on continue au verset 2. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots ont été couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Et elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, un sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel règnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. L'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sort d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Il y a une partie de ça que vous avez peut-être reconnu dans ce qu'on a chanté avant le message. L'aspect spectaculaire, c'est assez clair ici, je vais être bref sur ce point, c'est pas le plus long point du message, c'est le deuxième qui l'est. Mais on peut dire que c'est une expérience sommet, une expérience éclatante, spectaculaire. Et on a ça des fois dans nos vies personnelles, puis dans la vie d'une église aussi, rappelons-nous, hein, on a eu des moments dans l'église des fois, je parle souvent de l'expérience du COVID et tout ça, mais aussi, rappelez-vous hein, quand on a eu l'épisode du bâtiment. Acheter le bâtiment, se retrouver ici, rénovation, tout ça, c'était comme « Wow, on a vu la main de Dieu, on n'avait rien, Dieu qui a tout, il a vraiment manifesté sa gloire en pourvoyant de tellement de façons. » Il y a des expériences comme ça où est-ce que le Seigneur nous fait voir les choses d'une manière là, comme ça, très évidente, et c'est extraordinaire, on loue le Seigneur pour ça. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça soit évident ou non, la vie chrétienne normale, de par sa nature même, elle est surnaturelle. Dans les moments spectaculaires, c'est plus évident, mais même dans les moments moins spectaculaires, la vie chrétienne devrait toujours être spectaculaire, pas pour être un spectacle, puis une espèce de manifestation de la chair qui veut essayer de prouver quelque chose, mais le fruit de l'esprit, dans des circonstances où est-ce qu'il y a une réaction d'une façon, mais être sous le contrôle du Saint-Esprit dans des circonstances adverses où est-ce que lui se glorifie par sa délivrance. Et je dirais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, on doit toujours continuer de s'émerveiller des choses extraordinaires qu'il fait. Par exemple, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est quelque chose de merveilleux. Personne ne peut faire ça humainement. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est surnaturel, c'est un événement qui ne peut se comparer à rien d'autre dans le monde. Même la main rouge à comparer, veut dire quelqu'un qui passe de la mort à la vie. On devrait aussi se réjouir de choses qui sont extraordinaires, des réconciliations. Et là, je parle de réconciliation réelle, profonde, dans la vérité puis l'amour, et qui sont durables. On devrait se réjouir grandement. Il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans. Wow! La Bible nous dit que les frères qui ne s'entendent pas, c'est comme les verrous d'un palais, mais lorsque Dieu brise ça, qu'il y a une réconciliation réelle, wow! C'est une grande victoire. La victoire aussi sur le péché, sur les forteresses que quelqu'un depuis des années peut avoir eu, puis ça, tout ça était fondé dans le mensonge. Vive le mensonge! Et là, Dieu qui brise ses chaînes, Dieu qui délivre, c'est extraordinaire. Aussi, c'est extraordinaire lorsque quelqu'un qui est sauvé comprend les vérités de son identification à Christ, qui passe non seulement de l'Égypte puis qui traverse la mer Rouge, puis qu'après ça, ils sortent du désert, puis ils rentrent dans la terre promise de Canaan, les plus grandes et les plus précieuses promesses. On devrait se réjouir de quelqu'un qui accepte son acceptation, qui vit toute la liberté qu'il a en Jésus-Christ, la vérité dans l'amour, et que vraiment on voit le triomphe de Christ, non pas de cette personne, mais de Christ qui vit dans cette personne, qu'on le voit se manifester, qu'on voit le fruit de l'Esprit évident dans la vie de cette personne-là. Ces choses-là, c'est des choses spectaculaires, des choses qui doivent vraiment toujours nous émerveiller, faire la joie de nos cœurs. Et toutes ces choses, c'est la nouvelle puissance surnaturelle que nous avons en Dieu qui se manifeste, qui est mise de l'avant de façon évidente, et ça doit nous encourager toujours. C'est 100% naturel, mais il y a un autre aspect du surnaturel, c'est 100% surnaturel, mais il y a un autre aspect du surnaturel qui, lui, des fois, est moins évident. Et des fois, c'est bon de se rappeler le côté spectaculaire quand on est dans le côté qui nous fait oublier des fois le surnaturel, et c'est l'aspect ordinaire de la nouvelle puissance surnaturelle que nous avons. Il y a un côté, là, dans le monde ordinaire. Puis là, on va le voir avec les versets 22 à 27, à 26. Où est-ce qu'on peut lire? Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc déjà, là, ils marchent, là, c'est quand même, là, c'est fini, là, c'est plus, ils marchent pas à travers la mer Rouge, là, c'est une marche ordinaire. Ils arrivèrent à Mara. Et là, ça veut dire quelque chose, Mara. Vous en demanderez à Naomi ce que ça veut dire, Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, ça veut dire amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. En anglais, ça dit un arbre, un tree, comme Jésus qui est mort sur le bois infâme. Ça nous pointe à la croix, ceci, là. Un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » L'aspect ordinaire, quand on lit ça, on peut voir, est-ce quelque chose de plus ordinaire que marcher, manger, puis boire? C'est quand même pas mal plus ordinaire que ce qu'on a vu avant, là, Dieu qui a fait éclater sa gloire. Là, Dieu ne faisait pas éclater sa gloire, mais Dieu était tout aussi glorieux. Et j'aimerais attirer votre attention sur comment Dieu a quand même manifesté sa grâce surnaturelle à son peuple dans ces événements-là. D'abord, j'espère que vous voyez tous la croix ici, là. Ce bois qui est jeté dans les eaux amères et qui adoucit, c'est la croix qui change l'amertume de ce monde déchu et triste et qui adoucit. C'est Dieu qui est la source d'eau vive. Dans ce monde, ce n'est que citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, que les eaux amères du péché. Christ est venu assainir, Christ est venu purifier. C'est pas le sujet de mon message, mais je veux juste attirer votre attention. Il y a quelque chose de beau là-dedans qui pointe à la croix de Christ. Mais ici, comment la grâce de Dieu surnaturelle est manifestée, si ce n'est pas de façon spectaculaire comme dans le point précédent? Elle est manifestée par la disposition de cœur de Dieu envers l'attitude d'Israël. Puis là, ici, c'est juste un exemple, mais c'est incroyable comment on voit dans Exode et dans les Nombres, comment Israël était têtu, comment il y avait toujours quelque chose à se plaindre contre Moïse, contre Dieu, puis ça, puis la grâce de Dieu, on la voit par sa patience puis sa longanimité. Ça, c'est un beau mot. Longanimité, les Anglais disent « long suffering », c'est l'idée que c'est une patience qui s'étire, qui dure longtemps. En anglais, « long suffering », tu souffres longtemps, le fait que l'autre te fait souffrir, te donne de la misère. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui se manifestait dans le très ordinaire du quotidien. C'est ça qui est mis de l'avant là-dedans. Et je vous dis, il y a plusieurs exemples, on pourrait les multiplier. Mais par exemple, Mané, ça a atteint même un sommet dans Exode 32. Vous connaissez Exode 32, c'est l'épisode du veau d'or. Hein? Moïse est sur la montagne, il reçoit la loi. Puis là, Dieu dit, le peuple déjà s'est détourné. Puis là, il dit, ma colère s'est enflammée contre eux. Puis là, on voit Moïse qui intercède, puis Dieu qui dit que finalement, il se repent de ce qu'il voulait faire. Et là encore, voyez-vous, la longanimité de Dieu. Dieu avait tellement de raisons d'exercer sa juste et sa sainte colère, bien, sa grâce était manifestée envers ce peuple. Mais on est sous la Nouvelle Alliance et j'aimerais amener la lumière de la croix, la lumière de la Nouvelle Alliance sur les vérités qu'on considère ici parce que c'est vraiment salutaire. Remarquez ici la différence entre le peuple d'Israël ici qui est sous la loi. Vous avez vu au verset 26, hein, si tu fais ci, si tu fais ça, puis là, OK, c'était très, c'est l'aspect très conditionnel d'être sous la loi. Si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça, puis si tu fais pas ça, je vais te bénir. On sait pourquoi, justement, ça n'a pas marché, parce que personne ne peut garder la loi. Et bon, on sait qu'il y avait tout un but là-dedans. Encore là, ce n'est pas le but du message, mais le peuple était sous l'ancienne alliance, sous la loi. Nous, nous sommes sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça, c'est un excellent verset où est-ce que ça nous montre que, tu sais, si quelqu'un veut prendre la grâce comme un prétexte pour pécher, la Bible dit non. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que tu n'es plus sous la loi. La loi nous ramène sous la puissance du péché parce que c'est tout le soin qu'essaie de combattre. Mais la grâce, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vient en moi. C'est pour ça que le péché n'a plus de puissance sur moi parce que celui qui est plus fort que le péché vit en moi. C'est ça l'idée ici vraiment de Romains 6, 14 que je viens de vous citer. Donc, on pourrait dire que l'ancienne alliance versus la nouvelle, c'est deux façons de confronter le péché qui sont vraiment totalement différentes. D'abord, dans l'Ancien Testament, parce que Dieu a toujours été contre le péché, d'ailleurs c'est pour ça que Jésus a fallu qu'il vienne sur la croix et qu'il prenne la pénalité, qu'il prenne la condamnation du péché sur lui-même pour régler le péché, parce que la première alliance était vouée à l'échec. Et la Bible le dit, là, ok? Je vais juste vous amener des versets pour vous prouver le point, là. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Là, je suis en train de vous lire Hébreux 8, versets 7 à 9. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, comme on vient de lire là. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, voué à l'échec, comme je vous disais. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Puis on peut lire au verset 13 du même chapitre dans Hébreux. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. La première alliance était temporaire, elle était jusqu'à Christ, elle était pour conduire à Christ, celui qui est l'instigateur de la nouvelle alliance. Mais pourquoi il y en était ainsi? Pourquoi il y avait un problème avec cette ancienne alliance, qui est une sainte alliance, que Dieu, c'est pas, on lit ça dans la Bible, c'était pas n'importe quoi, c'était vraiment, c'était donné par des anges et tout ça, c'était quand même glorieux. Pourquoi cet échec? Parce que cette ancienne alliance n'adresse pas le problème intérieur du cœur de la nature pécheresse. Parce que oui, la loi convainc le cœur, puis c'est une conviction intérieure. La loi nous convainc du péché, ok? C'est le rôle de la loi. Si on veut se cacher devant la loi, elle nous dévoile, ok? Mais la loi, bien qu'elle produise la conviction du péché, ne peut pas produire la transformation du cœur avec le problème du péché. Elle révèle le problème, mais elle ne pourvoit pas la solution. C'est ça le problème de l'ancienne alliance de la loi. Elle ne peut pas nous conférer des nouveaux désirs pour Dieu. C'est ça tout le caractère vivant et la caractéristique principale de la nouvelle alliance. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie 31. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-là n'enseignera plus son prochain. » Ni celui-ci son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ça, c'est la nouvelle alliance. Et je dirais, cette nouvelle alliance va au cœur du problème. Elle s'attaque justement à la question du cœur. C'est pas le tape à l'œil extérieur des miracles, la manifestation glorieuse de Dieu, parce qu'aussi glorieuse soit la sortie d'Égypte, ça peut avoir eu un effet sur leur cœur, mais ça l'a pas transformé intérieurement leur cœur. Avec chacun, ça c'est chacun personnellement, mais même si tout ça c'était super, ça pouvait pas accomplir pleinement ce but-là de transformation du cœur. C'est le miracle de la grâce à l'intérieur du cœur qui donne des nouveaux désirs, une nouvelle puissance pour accomplir les désirs de Dieu. Ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu dans l'ordinaire. Et ça nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et c'est ça qui est important de comprendre quand on parle du surnaturel dans le monde ordinaire, c'est dans le quotidien où est-ce que des fois j'ai le goût de répondre comment j'ai toujours répondu, d'avoir les tendances, les mécanismes de défense que j'ai voulu, que j'ai toujours eu, que je me suis habitué à avoir. La grâce de Dieu qui se manifeste là pour produire à la place des fruits de la chair, le fruit de l'esprit, ça c'est la grâce de Dieu. Et c'est surnaturel, mais c'est dans l'ordinaire de rentrer, tu cloques à la job, excusez mon anglicisme, là, tu poinçonnes en arrivant au travail, puis là, il y a quelqu'un qui a une attitude désagréable, la réponse de Dieu à travers toi, c'est surnaturel. C'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. C'est ça mon point. Maintenant, je veux continuer à développer un peu parce que il y a beaucoup là-dedans qu'il faut vraiment qu'on saisisse ensemble. Parce que, tu sais, comme avec l'incarnation, Dieu veut manifester l'extraordinaire au sein même de ce qui est bien ordinaire. Jésus, là, c'est Dieu fait homme, mais il est venu là, dans un corps, ça avait, il avait l'air de quelqu'un de bien ordinaire. Mais c'était Dieu, le Fils, qui venait habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. OK? Et lorsqu'on comprend ça, on voit quelque chose de vraiment important. Vous savez, dans Exode, ici, Exode 15, on témoigne de quelque chose de surnaturel au début, puis après, on peut dire que c'est plus ordinaire, malgré que je viens de vous expliquer comment il y a du surnaturel là-dedans. Mais le contexte était plus ordinaire. Ma question, c'est où va se jouer toute la question de notre connexion avec cette puissance de Dieu, cette grâce de Dieu? Où est-ce que va jouer sa connexion? Pas juste là quand on est dans l'extraordinaire avec la mer rouge qui s'ouvre, mais dans l'ordinaire du quotidien, où la connexion avec le surnaturel va se jouer? Où ça va connecter avec le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le même Dieu qui a ouvert la mer rouge, mais au bureau, dans une situation familiale, dans un souper de famille? C'est où que ça connecte? Parce que c'est plus aussi spectaculaire, là. Tu sais, le feu qui descend du ciel avec Élie, là, bon, mais ça arrive. Moi, c'est pas même que j'allume mon feu, là. J'ai déjà essayé, par exemple, ça n'a pas marché, là. Je pense que Dieu avait d'autres plans, là. Il faut que je prenne des allumettes, là. Mais c'est où que ça connecte? Ben, en un mot, la dépendance. La dépendance. Vraiment, ici, là, ce qu'il faut voir, c'est que OK, quand on regarde le pays ici, sortait de l'Égypte, là, vous connaissez l'histoire. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont essayé de rentrer en Canaan. C'était toute leur propre sagesse, tout ça, parce que là, en tout cas, vous connaissez l'histoire. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Dieu les a fait aller pendant 40 ans dans le désert. Puis finalement, ils ont fini par rentrer. On voit à travers tous ces événements-là comment Dieu ramenait constamment cette idée de la dépendance totale à Dieu. C'était évident quand il était dans le désert, je veux dire, il n'y avait rien à boire, rien à manger, il y avait Christ qui les suivait, le rocher spirituel qui les suivait, c'est Christ pour leur pourvoir de l'eau, la manne qui venait du ciel. Dieu a, de façon surnaturelle, préservé leurs vêtements pour pas qu'ils s'usent, parce que pendant 40 ans, là, puis tu peux pas aller chez Walmart, tes souliers commencent à être maganés. Hein, ceux qui ont des enfants, vous le savez. Mais Dieu avait de façon surnaturelle gardé tout ça, et tout ça, ça n'a même pas fini lorsqu'ils étaient rendus dans Canaan, parce qu'avec Josué, ils ont passé le Jourdain. Il y a une symbolique aussi là-dedans, mais dans la terre promise, la même dépendance était toujours là. Pourquoi? Parce que pour vaincre Jéricho, là, il fallait totalement qu'ils dépendent de Dieu. Puis, je veux dire, pas juste physiquement, même dans leur pensée, là, parce que comme plan d'attaque pour conquérir une ville, humainement parlant, je veux dire, qui aurait dépendu, qui est-ce qui aurait mis sa dépendance dans un plan aussi, excusez-moi l'expression, mais farfelu que ça, de juste tourner autour de la ville? Voyez-vous la dépendance? Puis même, on le voit aussi avec la ville d'Haï qui était pas loin. « Ah, oh, on va être correct cette fois-là! » Puis Dieu leur a montré, « Non, vous dépendez toujours de moi! » Constamment, ce qui revenait, c'est Dieu qui leur disait, « Il n'y a rien que vous pouvez faire par vous-même, vous dépendez de moi. » Même une fois bien installé, là, une fois qu'ils ont, après que Josué soit mort et tout ça, puis que là, à l'époque des juges, il était installé, écoutez ce qu'on peut lire sur ce que Dieu voulait leur montrer sur la dépendance. Dans Juges 3, comment le livre des juges, bon, ouvre là, c'est rendu au chapitre 3, mais c'est au début du livre des juges. « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, donc du temps de Josué, Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Armon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. » Donc Dieu éprouvait leur foi, mais aussi leur dépendance. Allez-vous dépendre de moi pour rester, non seulement pour conquérir la terre promise, mais pour y rester avec tous ces ennemis qui sont là. Et la réalité, savez-vous quoi? On dépend toujours de Dieu, que ce soit dans le côté spectaculaire, le côté délivrance par la main rouge et compagnie, que dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans les deux cas, on dépend autant, à 100% de Dieu. Pas comme si, avec la main rouge, on dépend à 100% de Dieu. Puis dans le quotidien, mais je suis capable de faire du 50-50. OK, là, j'ai mon point important que je veux vous amener. Parce que là, j'ai amené quelque chose, mais je vais vous l'illustrer. Là où il y a un grand danger pour la vie chrétienne, c'est où est-ce que on arrive dans le point où est-ce que là, dans l'ordinaire, on est habitué et on est capable de s'arranger soi-même. Énorme danger pour un enfant de Dieu. Parce que là, dans l'ordinaire, on ne se rend plus compte à quel point on a besoin de la grâce. Elle est plus précieuse, elle est plus comme... Là, on a appris... Je vais vous donner un exemple, là, pour prêcher. T'sais, ça fait comme 3-4 messages que je prêche dans ma vie, là, j'ai comme un peu l'habitude. Ben, tu sais, au début, quand je prêchais, je me rappelle, là, tu pries, puis là, hey, « Dieu, au secours! » Puis là, t'es tout nerveux, t'es devant le monde, puis t'es le même. Mais après ça, tu sais, tout le temps, vous autres, tu sais, puis vous êtes quand même pas trop antipathique, fait que je veux dire... C'est plus facile. Il y a un grand danger pour moi de m'appuyer sur ma propre sagesse, de m'appuyer sur mes moyens. Puis je demande tout le temps au Seigneur, garde-moi de ça. Parce que c'est ta parole vivante, puis c'est du sur-mesure pour là. Je veux pas être du pilote automatique. Là, j'ai donné un exemple. Mais on a tellement de choses dans l'ordinaire. Où est-ce qu'on peut tomber dans ce piège-là? Puis c'est là qu'il faut comprendre que la grâce de Dieu, là aussi, extraordinaire et évidente est-elle dans les moments spectaculaires, on en a besoin tout autant parce qu'on dépend autant de Dieu. Puis je dirais, on en dépend plus parce qu'on a cette tendance tellement automatique, tellement facile à s'appuyer sur notre propre sagesse. Puis à faire du 50-50 avec le Seigneur. En Seigneur, ben là, je suis quand même habitué. Sûr, tu sais, je vais m'organiser tout ça. Tu viendras m'aider, je vais faire signe si j'ai besoin d'aide. Puis là, moi, je suis comme assez évident la façon que je parle, mais ça peut être dans nos pensées. Que Dieu nous protège de ce piège. Il y a un piège vraiment là-dedans qui est de l'autosuffisance. Et, tu sais, j'appelle ça être un chrétien professionnel. Hein, quand ça fait, hein, c'est le fun, hein, le Seigneur nous amène des nouvelles personnes. Christophe qui vient de recevoir le Seigneur, ça fait pas longtemps, puis tout ça. Lui, tout est nouveau, il apprend tout. Mais à un moment donné, là, quand ça fait un petit bout, là, on apprend, OK, là, ça, je sais comment, hein, puis... Ben merci Seigneur qui nous enseigne ses voies. Mais il ne nous enseigne jamais l'indépendance, par contre. On peut grandir dans le Seigneur, puis on peut avoir un fondement, une solidité en lui. Mais ça ne doit jamais équivaloir à l'indépendance. S'il y a quelque chose que vous retenez, là, si vous êtes fatigué aujourd'hui et vous avez de la misère à écouter, là, ça, c'est le point que je voulais le plus communiquer aujourd'hui avec mon message. Maintenant, comprenons que quand on tombe sur le pilote automatique, quand on tombe dans le piège du chrétien professionnel, c'est pas parce qu'on n'est pas sincère. C'est pas parce qu'on n'aime pas le Seigneur, ni même, je pense, parce qu'on est hypocrite. Non, le problème, c'est parce que notre chair est indépendante, puis si on n'est pas conscient de ça, c'est pernicieux, cette indépendance va s'immiscer. Au sein même de notre amour pour le Seigneur, de notre sincérité pour lui, puis, OK? C'est pas une question de « Ah, oh, j'aime pas le Seigneur, je l'ai abandonné, puis... » Non, non, c'est parce que je l'aime, puis tout ça, puis à un moment donné, je me rends pas compte, puis... S'il y a vraiment, il y a quelque chose là-dedans où est-ce qu'il faut prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, garde mon cœur. Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faite. Veillez et priez, hein, afin de ne pas tomber dans la tentation d'être indépendant. Autrement dit, tout moyen, toute façon par laquelle j'essaie de pallier à ma dépendance à Dieu le Saint-Esprit, en s'appuyant sur ma chair, que ce soit dans mes pensées, dans ma volonté, dans mes émotions, je dois m'humilier, puis me revêtir d'humilité. Dans mes rapports avec les autres, puis dans moi-même, ma relation avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est bon quand il nous arrive des déceptions, quand il nous arrive des affaires qu'on n'aime pas, puis qu'on ne veut pas, parce que c'est Dieu, dans le quotidien, dans l'ordinaire, qui nous dit, « Mon enfant, je t'aime trop pour te laisser aller à toi-même, à tes tendances, à tes bonnes tendances, à tes bons désirs, mais indépendant. Que ce mot soit gravé sur nos cœurs. L'indépendance, c'est tout qu'un ennemi de la vie chrétienne, de la marche par la foi, parce que ça émane de l'orgueil, ça n'émane pas de l'humilité. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Puis merci Seigneur que tu résistes à mon orgueil, parce que j'en ai besoin. Parce que l'orgueil, c'est comme quelqu'un a dit, c'est comme le pissenlit de l'âme. Ça prend juste une petite craque de rien du tout, puis ça va fleurir là où est-ce qu'on n'aurait pas pensé que ça allait venir de là. Remarquez comment on peut être biaisé, on peut être sélectif des fois quand on parle de la puissance de Dieu. Avouez, quand on parle de puissance de Dieu, on pense au côté « wow », on pense au côté « spectaculaire ». Puis même, on peut être motivé là, à rechercher ça, rechercher le spectaculaire, rechercher le « wow ». Et c'est pas à mépriser, là, ça arrive du « wow » dans nos vies. Là, on a vécu, puis on dit « merci Seigneur ». C'est pas mal en tant que tel. Mais l'essence même de la vie chrétienne, la majorité de la vie chrétienne, c'est Dieu qui vit en nous, dans des moments bien ordinaires, au lever, le matin, le soir, quand on a les yeux qui ferment. Dieu est là en nous, puis sa grâce, c'est ce qui nous soutient. C'est lui, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, j'espère qu'on ne va jamais revenir de ça. Ne prenons jamais pour acquis cette grâce que Dieu habite en nous, qu'il vit en nous. Et pour reprendre les mots de Paul, j'aime tellement ce verset-là, puis je demande à Dieu qu'il m'ouvre les yeux sur la grandeur de ce qu'il nous dit ici. Dans Galates 5, 14 et 15, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Paul n'en revenait pas de la croix. Il n'en revenait pas d'avoir été transformé par la grâce de Dieu. Puis ça, il y avait constamment un « wow » dans son cœur là-dessus. Que Dieu garde toujours ce feu brûlant pour Christ et sa croix et sa grâce dans nos vies. Parce que c'est ça, la vie chrétienne, c'est Christ en nous qui vit. Ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Et donc, je termine avec, j'aime ça terminer des questions, s'adresser à la conscience de chacun. Est-ce que ta vie porte la marque du surnaturel? Puis là, je n'ai pas demandé si tu as fait des grands exploits, si tu as séparé le bain chez vous, là, ou quelque chose de même. Mais est-ce que ta vie porte la marque du surnaturel? Premièrement, si tu n'as pas reçu le Dieu surnaturel, le Dieu vivant, ben ça commence avec naître de nouveau, avec passer de la mort à la vie. Je le dis, à la nouvelle naissance, c'est surnaturel. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un avec toute sa bonne volonté ou quelqu'un qui veut t'aider. C'est pas humain. Le salut vient de l'Éternel. C'est Jonas qui nous dit ça. Le salut n'est pas d'origine humaine. Donc, si tu n'es pas sauvé, mets ta confiance en Dieu pour naître de nouveau, naître par l'Esprit de Dieu, naître d'en haut. Et si tu n'es pas sauvé, Dieu se présente à toi avec, je vous cite, Jésus ici dans Jean 5, 24, qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si tu entends la voix de Christ qui t'appelle et que tu l'écoutes, que tu y ajoutes foi, que tu reçois cette parole vivante, tu vas passer de la mort à la vie. Humilie-toi pour ajouter foi à ce que Dieu te dit ce matin. Pourquoi? Parce qu'en le recevant, c'est lui qui va devenir ta vie. C'est lui qui va devenir ton salut, ta délivrance, ton espérance vivante. Et pour nous, les enfants de Dieu, voici ce que j'ai à dire pour terminer. Joignons-nous ensemble d'une même voix, d'un même cœur, pour réaffirmer à Dieu. On le sait déjà tout qu'on dépend de Dieu, mais le réaffirmer d'une manière fraîche. Dieu, garde à ma conscience, toujours réveillée, à quel point j'ai besoin de toi. Garde-moi de moi-même, d'être autosuffisant, de m'en remettre à ma sagesse, à mes façons que j'ai toujours été habitué, comme chrétien, comme chrétienne, de faire face aux choses de la vie. Dieu, fais-moi cette grâce de me rappeler à quel point je dépends de toi. Amen. Oui, Seigneur, merci que nous dépendons de toi. Et merci, Seigneur, que dans ta grâce merveilleuse, tu agis pour pas nous laisser aller à nous-mêmes. Tu laisses pas les perdus se perdre indéfiniment. Seigneur, merci que tu appelles, tu donnes des problèmes, tu laisses aller les choses de mal en pire pour sauver le malheureux dans sa misère, alors que tu utilises la souffrance pour l'avertir. Merci aussi que nous, ton peuple, Seigneur, tu ne laisses pas aller sur le pilote automatique, sur l'indépendance d'une vie chrétienne, qui n'est pas la vraie vie chrétienne, mais d'une fausse vie chrétienne. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux, illumine les yeux de notre cœur pour que vraiment on voit dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans ce qui n'est pas très spectaculaire, qu'on voit à quel point toujours nous dépendons de ta grâce. Merci pour cette grâce si douce, suffisante. Merci Seigneur que tu es toujours vrai, tu nous conduis dans toute la vérité. Tu ne veux pas qu'on vive le mensonge de l'indépendance, tu veux qu'on vive la vérité de la dépendance à toi. Toi qui es bon, qui est toujours là, qui est fidèle. Merci Seigneur, on te loue, on te bénit de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.